Quand je disais que parmi les gens qui diffusent cette légende, il y a des gens respectables, là vous en avez une liste. Je parle de légende, je pourrais même parler de mythe, parce qu'on est là dans une figure typique de la création d'un mythe. Elle s'intègre dans un mythe scientifique assez ancien, qui est le mythe des retombées de la science, le mythe du processus linéaire d'innovation qui conduit d'idées abstraites dans les laboratoires jusqu'aux innovations dans l'industrie et le commerce. Alors qu'il y a fait longtemps que les historiens des techniques et des sciences ont montré que les choses étaient beaucoup plus compliquées, qu'il y avait des allers-retours et des phénomènes de réponse, de réciprocité entre les deux niveaux, mais ça fait rien. C'est tellement tentant de montrer une idée géniale qui descend plus fine sur la technologie et la matière, qu'on ne peut pas s'empêcher de la reprendre. Et c'est le cas d'un certain nombre de ces gens. Donc Martin Davis, un des grands professeurs américains de logique, qui a écrit un livre à la gloire de la logique et de sa conséquence selon lui, qui est l'invention de l'ordinateur universel, The Road from Leibniz to Turing. Et puis il y a un philosophe, Jack Copland, qui est un peu le continuateur de Martin Davis, qui a écrit Turing, Pioneer of the Information Age, et qui s'est encore beaucoup plus avancé dans une série d'articles qu'il a publiés en 2012 et 2013, l'un des derniers étant What Apple and Microsoft Owe to Turing, et qui pratiquement fait une continuation directe entre la Turing, la pomme qui a empoisonné Turing, et la pomme qui est devenue le logo d'Apple. Ce qui est... bon.
Pourquoi prendre Apple ?
Voilà. En France, il y a la bonne biographie intellectuelle écrite par Jean Lassègue. Que se passe-t-il ? Un journaliste qui tenait une page conso informatique, qui s'était intéressé dès le début de sa carrière à Libération, Laurent Lemire, a écrit une biographie d'Alan Turing. Il y a d'autres biographies, je vous les épargne. Mais donc, c'est un échantillon des travaux, des publications qui véhiculent cette idée, cette légende, ce mythe d'un schéma linéaire d'innovation entre l'article abscon lu par 10 logiciens à travers le monde en 1936 et les ordinateurs qui ont bouleversé notre monde. En face, je présente ça de façon schématique comme un tournoi médiéval, des historiens. Généralement des historiens qui connaissent vraiment très bien l'histoire de l'informatique, l'histoire des mathématiques et de la logique. Je commence par le titre le plus polémique volontairement de Thomas Hay, qui est professeur à l'Université de Wisconsin. L'article n'est pas encore publié, mais j'ai eu le projet, on en a discuté. Actually, Turing did not invent the computer. Et ça va être publié non pas dans une revue d'histoire ou de philosophie des sciences, mais dans les Communications of the ACM, of the Association for Computing Machinery. Donc ça va en plein dans le milieu informaticien. Je mentionne les très bons livres de Bill Asprey, qui fut naguère directeur du Charles Babbage Institute, sur John von Neumann et les origines de l'informatique moderne. Un jeune chercheur néerlandais, Edgar G. Delight, publie en ce moment d'excellents travaux fins, détaillés, précis, fouillés sur les débuts du software engineering et sur le rôle de la logique mathématique dans la formation d'une science informatique. Il y a les très beaux travaux de Michael Mahoney, qui était professeur à Princeton jusqu'à sa mort précoce il y a 2 ans, réunis sous le titre Histories of Computing. Il y a un Britannique, Mark Priestley, qui a fait un très beau travail sur la programmation. Et bien entendu, Alors lui n'a pas été partie prenante directement dans la polémique, mais il suffit de lire sa biographie, Alan Turing, The Enigma, qui est l'une des plus grandes biographies qu'il m'a été donné de lire, pour voir quelle a été réellement la vie, le rôle, les idées et les réalisations de Turing. Donc,
il est bagarre américano-british.
Pas du tout là-dedans. Pas du tout. Oui, les Britanniques ont parfois tendance à considérer que les Américains font la part moins belle à Turing qu'à von Neumann ou qu'à d'autres. Mais les principaux turiféraires de Turing dans cette affaire, c'est Copland et Davis qui sont américains. Et j'ai oublié de citer quelqu'un qui s'appelle Dyson, qui est un physicien, qui a écrit un autre livre, Turing's Cathedral. Donc là, on est en plein livre, quoi. On est plus dans la statification, on est dans la déification. Turing's Cathedral qui dit à peu près la même chose. Alors, bon, là, on va à nouveau rencontrer des problèmes de QuickTime et de compresseur d'image qui ne marchent pas, tant pis. Deuxième partie de mon exposé, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on peut réellement figurer cette histoire? Si on regarde les origines de l'ordinateur, les images qui n'apparaissent pas sont des images d'ENIAC ici et de Colossus ici. À droite. Si on schématise la genèse des premiers ordinateurs, donc les premiers ordinateurs ayant été mis en construction vers 1945-46 et mis en service vers 49-50, bien sûr, la théorie des fonctions récursives, la machine de Turing, sont quelque part dans un coin de l'esprit d'une partie des gens qui ont réalisé ces premiers ordinateurs. Une petite partie des gens qui ont réalisé ces premiers ordinateurs. D'autres les ignoraient complètement. Ce qui est vraiment important, c'est les expériences techniques. C'est la construction de l'ENIAC qui a montré les limites d'un très gros boulier électronique, d'une très grosse machine à mémoire externe, et l'expérience qui a été publique, qui a été publiée, qui a donné lieu à des réflexions de l'équipe ENIAC sur le thème. Cette machine a des problèmes de rendement. Il y a des limites à son rendement qui empêchent d'exploiter toute la puissance potentielle de l'électronique. Et c'est que la machine est obligée de lire des instructions externes. Elle est ralentie par le fait d'avoir recours à des périphériques sans arrêt. Donc il vaudrait mieux enregistrer les instructions et les données à l'intérieur de la machine sous forme d'impulsion électronique, ce qui permettrait d'ajuster l'ensemble des éléments du système pour optimiser la vitesse. Tout cela a été formalisé en 1945 par le mathématicien John von Neumann, qui a écrit un rapport, lequel a été diffusé, tandis qu'une école d'été, où des gens du monde entier venaient, en 1946, a fait connaître l'ENIAC et ce rapport et les nouvelles réflexions de l'équipe qui était en train de mettre en chantier un nouveau calculateur, cette fois à programme enregistré, l'EDVAC. Donc ça, c'est très important parce que l'ENIAC et von Neumann ont une influence, en tout cas à travers les États-Unis et